Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église. Le 20 janvier dernier, le pape François a exhorté les prêtres à réduire leurs homélies à 10 minutes maximum. Est-ce vraiment réalisable? Quel est le sens premier des homélies et comment les rendre accessibles à tous? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Jean-Michel Poirier, prêtre au sein du diocèse de Montauban, mais aujourd'hui à Toulouse, et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour mon père.
Bonjour Timothée.
Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation.
Avec joie.
Déjà une première réaction par rapport à la déclaration du pape, qui a donc demandé, je le rappelle, à ce que les homélies soient moins longues. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration du pape François?
Alors je crois qu'on a mis en exergue un des éléments des déclarations du pape François. Le thème de l'homélie est un thème qui occupe une partie de son enseignement. Il en parle assez abondamment dans Evangelii Gaudium, sa première grande exhortation apostolique. Il y revient fréquemment, donc il me semble qu'au-delà de la question du temps, c'est la question de la réception de l'homélie par l'Assemblée. Et j'aurais envie de dire qu'il existe deux façons d'aborder le temps. Il y a le temps que l'on mesure avec un chronomètre, et donc on peut dire effectivement une homélie, elle va durer 7, 8, 9, 10, etc. Et puis il y a le temps ressenti, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on trouve que ça a été long, que ça a été court, trop long, trop court? Et là, ce sont des affaires d'appréciation. Il y a des célébrations, par exemple, qui ne durent que 30 minutes et qu'on va trouver trop longues. Mmh. Et la même personne qui va entrer dans une célébration qui dure 2 heures ou 2 heures et demie ne va pas la trouver longue. Pourquoi? Parce qu'elle y est entrée dedans. Et je crois qu'il en va de pareillement pour l'homélie. Est-ce que les personnes dans l'assemblée entrent dans le mouvement? Donc nous allons en parler pendant toute cette émission. L'homélie, c'est tout un mouvement. Donc soit on y entre, soit on n'y entre pas. Et j'ai envie de dire, on peut trouver que c'est long au-delà de 3 minutes, parce qu'on n'y sera pas entré. Et par contre, si on y entre, on ne va pas regarder combien de temps ça a duré. Donc la règle des 10 minutes peut donner, si vous voulez, une idée de... Il ne faut pas que ce soit trop long, faut pas que... surtout que ça occupe trop d'espace par rapport au reste de la messe. En fait, en relisant bien ce qu'a écrit le pape, je crois que ce qu'il veut surtout souligner, c'est le fait que l'homélie ne doit pas prendre toute la place, la prédication ne doit pas prendre toute la place dans la messe, c'est pas le sommet de la messe. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il voulait attirer notre attention, parce que de fait la prière eucharistique, elle va durer combien de temps? Vous voyez, il ne faudrait pas qu'il y ait des homélies qui durent 20 minutes et une prière eucharistique expédiée, excusez-moi, en 3-4 minutes. Là, il y a un déséquilibre. Donc, je pense que c'est plutôt... sa remarque vise à dire l'homélie est très importante dans la messe, mais elle n'est pas le tout de la messe.
Parlons justement de la place de l'homélie dans la liturgie. Elle vient juste après la lecture de l'Évangile et juste avant le début du temps de l'Eucharistie.
Alors, la place de l'homélie se situe effectivement après la lecture, après les lectures, qui sont proposés à la messe. Donc le dimanche, il y a une première lecture, un psaume, une seconde lecture et l'évangile. Donc il y a 4 en réalité lectures. Et le but de l'homélie, disait mon professeur de liturgie, le père Cabier, qui était du Tarn, c'était ce que dit Jésus lorsqu'il va à Nazareth, c'est aujourd'hui que cette écriture s'accomplit. C'est-à-dire, il s'agit dans l'homélie de donner des pistes pour voir comment cette parole de Dieu qu'on vient d'entendre, d'abord comment on la reçoit comme parole de Dieu, et ensuite comment elle s'accomplit aujourd'hui dans les circonstances présentes qui sont les nôtres.
Quel est le sens premier, au final, des homélies? C'est celui d'expliquer l'Évangile ou c'est de livrer un enseignement, un éclairage sur la position de l'Église?
Alors, il y a une part d'enseignement, c'est une part d'explication aussi qui peut être nécessaire. Mais tout dépend évidemment du texte ou des textes que l'on a entendus si cela demande ou pas des éclaircissements, une remise en contexte, etc. Évidemment, ça peut beaucoup varier. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est de permettre d'entendre ces textes comme parole de Dieu qui nous est adressée à nous aujourd'hui, et pas d'abord de faire un enseignement. Même si, bien entendu, il y a une part d'enseignement, il s'agit de déployer tout le trésor de la foi de l'Église. Mais le trésor de la foi de l'Église, il s'enracine dans ce tronc et dans ces racines que sont la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'âme de la foi. C'est l'âme de la théologie, dit Vatican II, reprenant d'ailleurs une des expressions antécédentes. C'est l'âme, la parole de Dieu, c'est vraiment à la racine de notre foi, aussi bien la foi de l'Église que la foi de chacune et chacun d'entre nous. Et il faut sans cesse aller y puiser à cette source, à ces racines. Et alors, il faut montrer justement comment les éléments de la foi de l'Église sont organiquement reliés à cette parole de Dieu. Et donc, en fonction des temps, des dimanches, des textes, etc., on pourra, il sera profitable de le relier à tel ou tel élément de ce qui constitue la foi de l'Église. Mais sans jamais perdre de vue qu'il ne s'agit pas de ne faire que des exposés dogmatiques qui ont leur place en d'autres temps, j'allais dire, et en d'autres lieux, que de dire comment cela rejoint les personnes qui constituent l'Assemblée dans leur vie de foi, dans leur vie humaine, dans leur démarche de vie, dans le concret de ce qui les habite.
Est-ce que les homélies ont toujours existé dans l'histoire de l'Église ?
Alors, elles ont toujours existé, et je dirais même avant même l'histoire de l'Église.
Ah oui.
Nous avons parmi les premières grandes attestations d'une grande liturgie de la parole dans le livre de Néhémie. Donc nous sommes au retour de l'exil, nous sommes dans le contexte de l'Israël ancien, en tout cas avant Jésus-Christ. Donc au retour de l'exil, VIe siècle, et il y a Esdras qui va donner à entendre la loi. Donc tout le peuple va être rassemblé, il va monter sur une estrade, il va lire des éléments de la loi et tout le peuple va répondre « Amen, Amen ». Donc on a une belle liturgie de la parole et on nous dit qu'il y avait des Lévites qui étaient là, qui traduisaient, parce que sans doute qu'à ce moment-là, l'hébreu dans lequel on lit n'est plus compris par tous et donc on traduit en araméen, et ils faisaient comprendre le sens. Ils faisaient comprendre le sens. Donc vous voyez, c'est déployer le sens de ce qui est lu. Et donc, on pourrait avoir là déjà les premières traces de ce qui constitue l'homélie, c'est-à-dire une forme de commentaire de la parole, mais énoncé de manière verbale et dans le cadre d'une liturgie. Donc, vous voyez que c'est encore plus ancien,
et oui,
si je puis dire, que la pratique de l'Église.
Donc, leur format était complètement différent que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, puis alors quand on parle de longueur, moi je travaille par exemple avec mes étudiants une assez longue homélie d'Origène sur un passage du livre de la Genèse, chapitre 26, non excusez-moi, sur l'arche, oui c'est sur l'arche de Noé, celle-là, que je travaille avec mes étudiants, et à la fin, il parle de la fatigue des auditeurs. Alors on sait que Origène faisait des longues homélies qui avaient vraiment un caractère d'enseignement. Et donc si on les connaît, c'est parce qu'il y avait des gens qui notaient, des formes de secrétaires. Et donc là, on saisit sur le vif le fait qu'à un moment donné, il parle de la fatigue des auditeurs, donc sans doute qu'il doit percevoir, et donc c'est le moment où il va arriver vers la fin. Donc, vous voyez, on a affaire à des pratiques très anciennes et une grande partie d'ailleurs, une partie en tout cas non négligeable de ce que nous connaissons ou des écrits des pères de l'Église sont constitués par des homélies.
Ah oui.
On a des recueils d'homélies de pratiquement tous ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Je pense à Saint-Augustin par exemple.
Qui est en droit de faire une homélie ?
Alors... Tout dépend de ce que vous appelez par droit. Alors, je dirais plutôt que c'est la mission.
Oui.
C'est la mission, alors, des prêtres lorsqu'ils célèbrent, et singulièrement. Mais justement, la question de savoir est-ce que l'homélie est faite par celui qui préside l'Eucharistie ou bien par un autre. D'ailleurs, dites question qui suppose qu'il y en ait au moins deux pour que je puisse poser la question.
Oui.
Sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a les diacres, dont cela fait partie, intégrante du ministère. J'ai eu la chance, lorsque j'étais à Montauban et à Moissac, d'avoir sur mes paroisses des diacres permanents. Mmh. Et très régulièrement, je pense à Moissac, il y en avait un, ben je lui ai demandé une fois par mois de faire son tour d'homélie. Il ne pouvait pas plus pour des raisons, j'allais dire, professionnelles, etc. Mmh. Mais donc, ils font également des homélies. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que d'autres personnes pourraient être amenées? Alors, dans ce cas-là, on ne parle pas d'homélie, parce que ce n'est pas intégré, si vous voulez, dans la démarche quasi-sacramentelle de la parole de Dieu. On va plutôt parler à ce moment-là de commentaires, etc. Et l'une des questions qui peut être recherchée, enfin, qui est dans l'ordre de la recherche actuellement sur les ministères, c'est la façon dont des femmes pourraient recevoir ce type de ministère. Mais là, nous sommes dans une recherche beaucoup plus ample, autour des diaconesses notamment.
Quelle symbolique pour le prêtre ou le diacre de faire une homélie? C'est de s'adresser aux fidèles, aux paroissiens.
Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du symbolique. En tout cas, ce qui est symbolique... et qui me semble être le cas la plupart du temps, sauf lorsque c'est l'évêque qui préside, parce que généralement, lorsqu'un évêque préside, c'est quelqu'un d'autre que lui qui proclame l'évangile. Lorsque, dans une célébration, je le dirais, paroissiale, la plupart du temps, c'est celui qui proclame l'évangile qui également fait un commentaire, sauf là aussi, lorsqu'il y a un diacre permanent, et si ce n'est pas son tour, ben c'est lui qui va proclamer l'évangile, etc. Donc, vous parlez de symbolique. Dans la mesure du possible, donc, étant sauf ces cas-là, personnellement, je trouve que c'est bien que ce soit celui qui proclame, qui fasse en même temps le commentaire, parce qu'on montre bien que, précisément, il ne fait que, enfin, dans son homélie, il va se situer dans le sillage de cette parole qu'il a proclamée comme parole de Dieu. Il a pris le lectionnaire, il l'a levé, il l'a montré à tous en disant « Acclamons la parole de Dieu ». Et l'assemblée a répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Vous voyez, on situe l'homélie, c'est pas un commentaire de texte. Il se trouve que je suis enseignant à l'Institut catholique de Toulouse et de plus, je suis bibliste. Et donc, dans le cadre de mon enseignement, je commente tes textes. Mais c'est dans une situation, une posture en tout cas tout à fait différente, qui est la mienne, parce que comme prêtre, je célèbre et que j'ai à donner une homélie. Ce sont deux genres littéraires, enfin, et de postures différentes, de missions différentes également.
Est-ce que les séminaristes sont formés à savoir bien faire des homélies? Alors, peut-être que vous n'avez pas la réponse pour aujourd'hui, mais à l'époque, quand...
J'espère qu'ils le sont. Il faudrait demander au supérieur du séminaire. J'avoue que là, je suis un peu court pour vous répondre sur la pratique actuelle. La seule chose que je peux vous dire, c'est que au séminaire, je n'ai reçu aucun cours d'homilétique.
Ah oui.
Sans doute était-ce un manque. Aujourd'hui, on met l'accent justement sur la formation, hein, la formation à l'homilétique, parce qu'il y a effectivement tout un tas d'éléments. Bon. Mais je dirais que si je n'ai pas reçu de formation au séminaire, en revanche, à peine suis-je entré au séminaire, que j'ai été en stage dans des paroisses et que j'ai, pendant donc 3 à 4 ans, observé, écouté, c'était des prêtres en l'occurrence, qui faisait des homélies, je pouvais comparer. Et puis, en fait, j'ai appris sur le tas, en fait. Hein. Mais j'ai d'abord appris en me mettant dans la posture de celui qui écoute. Et puis, avant d'être séminariste, j'allais quand même à la messe. Hein. Et donc, j'entendais des homélies. Et pour vous dire, hein, l'un de ceux qui m'a le plus impressionné, et à juste droit, c'était celui qui a été pendant 2 ans mon curé de paroisse à Paris. J'étais alors étudiant, j'étais pas du tout, et je pensais, au tout début d'ailleurs, je n'avais encore aucune idée d'une vocation sacerdotale. Et ce curé de paroisse s'appelait Jean-Marie Lustiger. Et je l'avais interrogé d'ailleurs sur la manière dont il préparait, lui, les homélies. C'est tout à fait intéressant, parce que d'abord, il les faisait sans papier. chose que je pratique moi-même, excepté dans des cas où il faut être extrêmement précis sur ce que l'on va dire, donc c'est des cas qui peuvent être délicats, ou bien lorsqu'on peut être submergé par l'émotion, je pense évidemment à des baisses d'obsèques, de personnes qui vous touchent à cœur, donc là vous écrivez à l'avance. Hein. Mmh. Alors donc lui il me disait, c'est de l'ordre, parce que donc, je lui avais demandé comme paroissien, il m'avait répondu, hein. Il m'avait dit, bah, tu vois, c'est d'abord un discours, et ce n'est pas un texte que je lis. Je m'adresse à des personnes et je les regarde. J'ai gardé ça. Et alors, d'autre part, il m'avait dit comment il les préparait. Tous les jeudis, il montait dans une maison de retraite de jésuites qui s'appelait la Villa Morez à Clamart. Il y avait un bus qui allait directement de la porte de Saint-Cloud, puisque c'était à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, et qui allait directement à la Villa Morez. Et il s'enfermait en quelque sorte tous les jeudis, passait toute la journée à méditer les textes de la parole de Dieu. Et donc c'est là où il préparait ses homélies qui étaient, je peux vous le dire, de feu.
Père Poirier, on va faire une première pause musicale. On écoute « Trouver dans ma vie ta présence » et on revient dans quelques instants.
Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence.
Présence dans la cité mariale 96.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Jean-Michel Poirier, prêtre au sein du diocèse de Montauban, mais aujourd'hui sur Toulouse et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse pour parler de cette question des homélies. Mon père, une homélie, on l'a fait pour qu'elle soit écoutée ou entendue ?
J'aurais envie de vous dire, l'homélie, elle est faite pour être entendue. Elle est au service de la parole de Dieu qui a été proclamée afin qu'on l'écoute.
Ah oui.
Plus profondément. Donc vous voyez, l'important, moi je me dis, c'est pas que les gens retiennent ce que moi j'ai dit, mais qu'ils reviennent à la parole de Dieu qu'on a essayé d'éclairer, de commenter, de mettre en relation avec l'existence des personnes, mais je pense qu'on va on va reparler de cela. Mais l'important, c'est la parole. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Tiens, vous avez dit ça. » Or, soit je ne me rappelle pas l'avoir dit, soit je pense que ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais peu importe. Mais l'important, c'est qu'ils reviennent à la parole, et la parole de Dieu, je veux dire, bien entendu. Et donc, voilà la réponse que je pourrais vous faire à votre bonne question.
On parlait de la préparation juste avant la pause musicale. Comment vous, à titre personnel, vous préparez à une homélie ?
Essentiellement dans mon lit.
Ah oui, donc le soir.
Ça va vous étonner. Parce qu'en fait, moi j'ai besoin, si vous voulez, alors d'abord, évidemment, je lis les textes de la parole. Éventuellement, comme je suis exégète aussi, hein, je vais regarder d'abord ce qu'ils donnent dans leur langue originale, en hébreu ou en grec. Je vais les relire avec ce qu'il y a avant, avec ce qu'il y a après. J'aime bien aussi, il se trouve que j'ai la chance d'avoir chez moi quand même beaucoup de livres d'exégèse, donc c'est rare que je n'ai pas un livre, un commentaire, si vous voulez, du livre biblique dont est issu, ou d'où sont issus les textes qu'on va entendre le dimanche suivant, ou la fête suivante. Et donc, d'abord, si vous voulez, il y a toute une activité de connaissance, je creuse, etc. Bon. Alors après, je les laisse descendre en moi. Donc ça, généralement, je le fais le dimanche soir ou le lundi.
Oui, donc c'est rapide, juste
non,
après.
Non, c'est juste après le dimanche,
oui.
Où je lis les textes du dimanche qui vont suivre.
Qui suit.
Puis après, je les laisse descendre en moi. Et effectivement, à un moment donné, alors, je disais en matière du... Enfin, très pittoresque, si je voulais. C'est vrai que j'aime bien être allongé pour continuer. Et là, à ce moment-là, je me demande, mais qu'est-ce que ces textes me disent à moi ? En quoi ils sont d'abord paroles de Dieu pour moi ? Et alors, évidemment, on va dire, mais c'est très centré sur soi. C'est surtout se sentir engagé, si vous voulez, comme celui qui est à l'écoute de la parole. Et je dirais que celui qui fait l'homélie, c'est d'abord quelqu'un qui écoute la parole, et qui ensuite va dire à ses frères comment cette parole, ils peuvent l'écouter, comment elle peut résonner en eux. Mais il n'est pas celui qui va faire avant tout résumer la parole, donner un enseignement, parce que dans ce cas-là, la parole ne serait qu'un prétexte. Et donc, je laisse descendre, et c'est vrai que c'est dans une position allongée que je vais, si vous voulez, essayer dans ma tête de faire l'homélie en quelque sorte. Voilà. Et puis, ensuite, je reprends mes activités, ou je vais dormir si c'est le soir. Et puis, jusqu'au dernier moment, mais je sais quand même quelles vont être les grandes lignes, mais jusqu'au dernier moment, je laisse la porte ouverte à non seulement des aménagements, mais éventuellement à des changements. Et je vais vous donner juste un exemple. Un jour, j'étais à Moissac, et donc j'avais préparé une homélie, comme je viens de le dire. Et puis, je vois arriver au fond de l'église, donc j'étais présent au moins une bonne dizaine de minutes avant le début de la messe, voire un quart d'heure, et je vois arriver tout d'un coup, 10, 20, 30, 40, 50 personnes, et ils avaient l'air de se connaître plus ou moins, et pour autant de ne pas être des paroissiens dominicaux réguliers. Et donc, je demande à une religieuse qui était là, mais qui sont tous ces gens ? Elle me dit, mais c'est parce qu'il y a une messe de neuvaine. Voilà. Et je lui dis, mais la messe de neuvaine de qui ? Donc, elle me situe. Il se trouve que c'était quelqu'un qui était assez jeune, qui était décédé. Et donc, il y avait une soixantaine de personnes. eh bien, en fait, j'ai complètement changé. Alors, je me suis mis tout d'un coup dans la peau de ces gens-là, et je me suis dit, il faut que la parole de Dieu qu'on va entendre, elle puisse leur parler à eux, et non pas aux paroissiens habituels. Alors, en réalité, elle a parlé aussi aux paroissiens habituels. Mais vous voyez, là, j'ai complètement changé. Alors, c'est pas tous les... à chaque célébration que ça se passe. Mais vous voyez, il faut garder jusqu'au dernier moment, me semble-t-il, hein, la porte ouverte pour... ben voilà. Parce que ça dépend de la communauté qui est là. Et en fait, on s'adresse toujours à une communauté, ou en tout cas à une assemblée, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une communauté, mais il faut distinguer, mais on s'adresse à une assemblée. Et moi, la question que je me dis, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui à cette assemblée. Moi, je ne suis qu'un médiateur, un canal, un peu comme Moïse, qui descend de la montagne et qui porte la parole de Dieu.
Et vous sentez que l'Esprit Saint agit en vous pour diffuser cette parole de Dieu ?
Est-ce que je le sens ? Oui, mais c'est souvent après coup que je le ressens. Sur le moment, je ne suis pas en transe ni rien. Heureusement d'ailleurs. Mais il est certain qu'on se sent porté. On se sent porté. Alors pas toujours, hein. C'est pas automatique, mais très souvent quand même je me sens porté. Et parfois je pense à ce que Jésus dit à Pierre dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Tu iras là où tu ne voulais pas aller. Et il peut arriver qu'effectivement je sente... Alors non pas que je ne voulais pas y aller dans cet élément-là de l'homélie, hein. Mais il y a des fois où je me sens vraiment porté dans des choses que je n'avais pas imaginé dire ou sur lesquelles je ne pensais pas avoir à insister. Mais là, il y a aussi un des éléments, mais je pense dont nous allons parler, c'est le rôle actif de l'Assemblée.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir une... comment dire ? Faire feuille blanche, comme on dit, c'est-à-dire... vous n'arrivez pas à trouver l'inspiration et ça vient un petit peu au dernier moment.
Alors, il y a des textes, si je puis dire, qui me résistent.
Ah oui.
C'est-à-dire que, par exemple, vous lisez une parole de Dieu et vous dites « Ah bah oui, je vais démarrer là-dessus. » Enfin, ça, tout de suite, elle vous parle. Mais il y a des textes qui résistent. Alors, excusez, est-ce que je vais peut-être avoir l'air prétentieux, mais j'allais dire un exégète, ça lui résiste... pas forcément très longtemps, parce qu'il est habitué. C'est là où je me dis que ma pratique d'exégèse professionnelle m'aide évidemment, c'est évident, dans ma pratique de prêtre qui a donné des homélies ou à faire des homélies. Mais plutôt, ça peut, si vous voulez, ça peut me résister pour plusieurs raisons, mais surtout ce qui résiste, c'est que c'est l'effectivité de cette parole aujourd'hui, dans les situations concrètes. Ça peut être aussi des textes qu'on a maintes fois entendus et on n'a pas envie, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut me dire de neuf aujourd'hui ? Je vous prends un exemple, dimanche, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu les béatitudes. Donc c'était le quatrième dimanche, je crois, du temps ordinaire, avec donc on lit l'évangile de Matthieu. Or, c'est un évangile que nous proclamons à toutes les fêtes de Toussaint. Et combien d'homélies ai-je fait chaque année sur les béatitudes ? Eh bien là, comment, j'allais dire sur ce texte, où on pourrait aussi prendre les exemples des textes pour Noël, hein, comment pouvoir dire quelque chose de neuf, ou plutôt pour vous, comment pouvoir faire entendre quelque chose de neuf dans des textes qu'on a maintes fois entendus ? Alors, avec cette petite différence, c'est que ce n'est pas parce que le prêtre qui fait l'homélie l'a maintes fois entendu que les gens qui sont dans l'assemblée l'ont maintes fois entendu. Hein. Par exemple, dans les mariages, n'est-ce pas ? Il y a le fameux texte sur l'amour de la première épître aux Corinthiens. Même si des fois, on l'a tellement entendu jusqu'à la nausée, je parle de la part de ceux qui célèbrent, pour le couple qui est en face et pour les gens de l'assemblée, peut-être que ça va être la première fois qu'ils l'entendent, ce texte.
Mais oui. Est-ce que quand vous préparez, vous vous fixez un temps maximum à ne pas dépasser? Je rappelle les propos du pape qui disait que ça serait bien de rester dans ce créneau d'une dizaine de minutes pour une homélie, où vous vous laissez simplement porter par le texte et la réflexion qui va autour.
Alors, personnellement, je ne pose pas de montre ou de décompte du temps sur le pupitre, sur l'ambon, donc, d'où on proclame la parole et d'où l'on fait l'homélie. Donc, je ne le fais pas, cela. Personnellement, mais il n'y a pas de règle absolue, hein, je vous l'ai dit, la plupart, sauf exception, je n'écris pas mes homélies. Je les prononce en regardant les personnes.
Pour et parler en fait, au cœur
oui, mais enfin, parler au cœur. Voilà, je m'adresse à des personnes et je les regarde. Alors, mon regard balaye l'assemblée, accroche des regards ou pas. Et l'un des avantages de cela, c'est qu'on sent, on voit si les personnes écoutent ou pas. Et si à un moment, je sens ou je repère une tout ça, c'est un signal pour me dire. Là, il faut arrêter. Parce que... Alors après, à titre anecdotique, mais pour donner une note un petit peu drôle, lorsque j'étais coopérant en Centrafrique, pour faire mon service national à l'époque, il y avait des assez longues célébrations, comme on les aime en Afrique. En plus, c'est un grand moment de la semaine hein, pour les gens de l'Assemblée. Et alors, il y avait des femmes dont j'avais observé qu'elles donnaient... Donc, j'étais un simple laïc à l'époque. Hein, et donc, j'étais dans l'Assemblée. J'avais remarqué qu'il y avait des femmes qui donnaient le sein à leur enfant. Donc, elles arrivaient avec leur enfant et elles leur donnaient le sein en pleine messe. Mais c'était au moment de l'homélie. Et alors, j'ai posé un jour la question à quelqu'un. Mais pourquoi donne-t-elle le sein à ce moment-là? Et alors, on m'a répondu, parce que si le prêtre est trop long, elles enlèvent le sein de la bouche de leur enfant, et du coup, l'enfant se met à pleurer. Et donc, c'était un signal pour dire au prêtre,
ben
voilà, faut arrêter. Mais c'est bon, c'est drôle. Voilà.
Quand vous sentez que l'assemblée n'accroche pas, comment vous faites? J'imagine que les premiers mots sont extrêmement importants.
Alors effectivement, il y a des accroches, on essaie de travailler un petit peu les accroches, mais ça c'est les procédés de rhétorique, et si une homélie ne ressort pas que de la rhétorique, parce que sinon elle serait creuse, il y a bien sûr des moyens d'essayer d'accrocher. Alors le pape, il dit qu'il faut utiliser un langage avec beaucoup d'images. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que j'ai du mal à produire des images, mais je pense à tel ou tel confrère. Tiens, je vais en nommer un, parce que peut-être que s'il écoute, ça lui fera plaisir. Le père Georges Passerat, du diocèse de Montauban, il a un sens des images absolument extraordinaire. Donc, il trouve toujours des images assez pittoresques, assez très parlantes. Moi, je suis pas bon là-dedans. Mais bon, j'ai d'autres moyens, etc., ou d'autres... Voilà. Donc, vous me parliez de l'accroche, quoi. Hein. Et c'était quoi votre question, en fait?
Ben, tout simplement, comment vous faites si vous sentez que l'Assemblée n'est pas avec vous?
Généralement, je dois dire que j'ai le sentiment que l'Assemblée écoute. Vous voyez, je vois des regards ou des personnes, on sent que ça fait tilt chez elles. Et même si elles... Enfin, on le sent, on le voit. Très bien. Mais il peut arriver qu'on a l'impression, effectivement, qu'on a affaire à des assemblées où vous ne pourriez pas dire n'importe quoi. Ça ne serait pas différent. Et c'est assez déconcertant. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Et là, c'est difficile. Alors, après, je le prends un peu parfois comme un défi en me disant, bon, voilà.
Il faut arriver.
Mais encore une fois, c'est... L'objectif, ce n'est pas que ce soit moi qui intéresse. Ou ce que je veux dire, c'est que ce soit la parole de Dieu. Et là, vraiment, pour le coup, je demande à l'Esprit Saint, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je dise là pour qu'ils ouvrent leur cœur, mais non pas à ma parole à moi, mais à la parole de Dieu que je sers.
Est-ce que si vous avez une assemblée qui est plus ou moins jeune, ou vous adaptez aussi un petit peu en direct?
Oui, bien sûr, on essaie de s'adapter au type d'assemblée que l'on a. Alors, il m'est arrivé aussi de pratiquer régulièrement sur mes paroisses de Montauban et de Moissac pour des messes avec de nombreux enfants. Alors là, d'avoir recours à quelque chose qui est un petit peu différent, mais que pratiquent pas mal de prêtres. justement avec des messes des familles, c'est qu'on faisait rassembler, on faisait avancer les enfants, soit sur l'estrade, soit sur un grand tapis. Mmh. Et puis, à ce moment-là, je viens m'asseoir, et puis je suis au milieu d'eux, et puis je commence à parler, mais avec un micro, puis je leur pose des questions.
Interactif, alors.
C'est assez interactif. Alors, c'est assez drôle, parce que des fois, ils partent sur des choses où ils ont des choses absolument extraordinaires, les enfants.
Hein. Ah, oui.
Et j'adorais cet exercice. Alors, il ne faut pas que ce soit fait tous les dimanches. Mais là, vous voyez, ce n'est pas une homélie sous la forme d'un discours que les personnes écoutent, mais il y a une forme dialogale. Mmh. Alors, ça m'est arrivé de le pratiquer aussi dans une église de campagne où je suis allé pendant quelques mois pour célébrer dans les années... 97-98, et quand j'étais arrivé, il y avait des personnes qui... Il n'y avait pas beaucoup de monde, et ils étaient plutôt au fond de l'église. Donc après avoir proclamé l'évangile, je suis venu vers eux en leur disant, écoutez, moi j'ai pas l'habitude de parler à des bancs vides. Et là, comme je me trouvais au milieu d'eux, en fait, j'avais apporté le livre de la parole, puis je sais pas, assez spontanément, je suis entré en dialogue avec eux. Et du coup, tous les dimanches, pratiquement, il y avait une forme de dialogue. Et alors un jour, rire, mais en même temps tellement heureux. J'ai une dame, mais qui, je sais pas, devait avoir au moins 80 ans, voire plus, et qui me dit à la fin de la messe, j'avais préparé la première lecture et vous ne nous avez pas interrogé dessus. Bon, c'était amusant, mais ça veut dire que je me suis dit, au moins, lisez les textes de la parole et essayez de les méditer. C'est formidable, ça.
Père Jean-Michel Poirier, on va faire une deuxième pause musicale et on revient dans quelques instants.
J'embrasse le Fils, je bois à sa coupe.
présence à Luchon, 94 FM. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Jean-Michel Poirier, prêtre au sein du diocèse de Montauban, aujourd'hui à Toulouse, et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse. Mon père, avant de prendre le micro pour vous adresser à l'Assemblée, est-ce qu'il y a un stress, une petite appréhension que votre message ne soit pas directement ou correctement reçu par l'Assemblée ?
Alors, il peut y avoir des circonstances où il peut y avoir un peu de stress, mais la plupart du temps, il n'y en a absolument aucun. Et je dirais que la proclamation de l'Évangile, pour moi, c'est très important, la proclamation de l'Évangile, et l'homélie qui suit, sont des moments de la liturgie. Alors, toute la liturgie me passionne, je suis complètement dedans. Pour moi, ce n'est pas du travail, quoi. On me dit, oulala, du travail. Mais bon, après, je peux ressentir de la fatigue parce qu'il y a un gros investissement, mais je ne le conçois jamais comme un travail, bien. Mais vraiment comme, et vraiment comme une joie. Et alors, la liturgie de la parole, donc la proclamation de l'Évangile et l'homélie sont au contraire pour moi des moments de joie intense. Et j'allais dire, je brûle pratiquement de pouvoir partager le sens de la parole avec les personnes à qui je m'adresse. Et donc, non, il n'y a pas de, y a pas souvent du stress. Alors, il peut y avoir du stress, mais par exemple, lorsqu'on a prêché à l'Institut catholique et que vous avez derrière vous tout un tas de professeurs d'exégèse, etc. Bon, là, c'est plus... J'imagine, par exemple, nos chers évêques, lorsqu'ils ont à prêcher avec leur presbytérium qui est autour d'eux et qui, dont ils pensent que certains les attendent au tournant. Voilà. Mais la plupart du temps, on sent, surtout dans une communauté à qui on s'adresse régulièrement, voilà, on sent des attentes. Voilà, en gros, moi, je sens cette attente. Dites-nous comment cette parole de Dieu nous concerne aujourd'hui. Voilà, comment Dieu nous parle.
Le pape François donne quelques petits conseils pour rendre les homélies plus accessibles, parmi lesquels le fait d'être connecté au public. J'imagine que les homélies, ça passe aussi par la communication non verbale.
Oui, et puis je dirais que connecter, ce qu'il faut, c'est être connecté d'abord à la vie des personnes. Alors, puisque nous sommes en période hivernale, et bien que nous n'ayons pas de la neige, ce que je regrette personnellement, moi je pense souvent à, parce que j'ai grandi dans une région où il y avait de la neige, beaucoup de neige, et je me dis, voilà, imaginez une belle voiture qui est en plein hiver sur une route verglacée, et qui n'a pas les bons pneus. Et bien, aussi belle soit-elle, elle va pouvoir faire une embardée et se retrouver complètement dans le fossé. Il faut adhérer. Il faut que ça adhère. Et pour moi, l'essentiel, c'est de faire adhérer la parole de Dieu à la vie des personnes. Et c'est cette adhésion-là que l'on vise et que l'on cherche dans l'homélie. Et donc, effectivement... C'est tout est commandé par ça, si vous voulez. Et je pense que c'est à cela que le pape fait référence. Il faut que ce soit il faut que ce soit encore une fois une parole qui soit entendue dans le contexte, hein. Et donc par l'Assemblée qui est là devant vous avec ses propres. Alors évidemment l'Assemblée elle est toujours diverse, hein, Mais c'est assez étonnant d'ailleurs quand même de voir combien parfois des personnes viennent vous trouver à la fin en vous disant du coup. Vous savez, telle parole, pas la mienne, hein, la parole de Dieu, ben finalement, elle me rejoint dans ce que je suis en train de vivre là en ce moment. Et cette espèce de voilà, ça, il y a le miracle de l'incarnation de la parole dans la vie des personnes. Et de ce point de vue-là, Marie peut nous guider, hein, parce qu'elle est celle qui a reçu la parole et qui l'a laissée s'incarner et devenir grosse en elle.
Le pape a aussi invité à ne pas hésiter à passer du temps à préparer ses homélies. Il explique que c'est le grand ministère du prêtre et qu'elle a un caractère quasi sacramentel. Quelle lecture on doit faire de ces propos ?
On l'a dit, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement un commentaire ou un cours, mais ça s'insère dans la liturgie et donc ça a un caractère effectivement sacramentel. Mais le sacrement, c'est celui de la parole. Et donc, il faut que précisément ces textes que nous venons d'entendre soient reçus comme une parole de Dieu, une parole qui est présente, qui s'accomplit. C'est le Christ qui est présent lorsqu'on lit les Écritures et qu'on les écoute. Et tout le but de l'homélie, c'est de montrer comment il est présent lorsqu'on les lit et on les écoute. Alors effectivement, cela demande de lui consacrer du temps. Alors il peut être variable, et puis ça dépend aussi des personnes. Il y en a, il leur faut énormément de temps, d'autres moins de temps. De ce point de vue-là, si vous voulez, on ne peut pas fournir de règles, de règles absolues, etc. Hein. Mais ce que je pense que veut dire le pape, c'est que ça constitue quand même, aujourd'hui peut-être plus que jamais, un élément essentiel du ministère, du prêtre, ou faudrait-il ajouter du diacre, et bien sûr de l'évêque, hein, auquel il faut qu'il consacre en tout cas une partie importante de son énergie. C'est un élément central de son ministère.
Les homélies peuvent aussi être la porte ouverte à des dérives, et je reprends les mots du pape François qui dit que certaines prédications sont carrément désastreuses.
Alors, je laisse au pape le soin de, qualifier cela de désastreux. Je reprenais là, dans ce qu'il disait dans Evangelii Gaudium, il y a effectivement le risque que finalement, alors d'abord on ne soit pas... soit désastreux parce que c'est mal dit, parce que c'est mal fait, parce que c'est mal construit, parce qu'on comprend rien de ce que dit. Bon, d'accord, ça c'est des questions, j'allais dire, purement techniques. Mais ça peut être aussi désastreux parce que, alors il faut trouver le bon équilibre entre parler de soi ou vouloir absolument placer quelque chose, voyez, ou alors se faire l'humble serviteur de la parole. Et là où le pape souligne quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois, on s'oublie dans l'homélie derrière la parole, mais en même temps, on est engagé. Mais on est engagé autant comme disciple que comme apôtre. C'est-à-dire, on est d'abord quelqu'un qui écoutons la parole, qui la recevons et qui essayons, avec nos misères, nos fragilités, etc., de la laisser s'accomplir en nous. Et donc, on est un frère un petit peu plus, peut-être, au moins ce dimanche-là, un peu plus expérimenté que les autres sur cette parole, et qui venons humblement dire, ben voilà comment... Alors, effectivement, moi, ça m'arrive parfois de m'investir ou de dire « je » ou d'énoncer tel ou tel fait de ma vie. Mais c'est toujours au service pour montrer, voilà, pour montrer comment la parole, elle s'incarne aussi chez moi. Mais je ne suis pas d'abord là pour dire ce que moi je pense. Je pense à un prêtre avec qui j'avais été en stage, qui disait il faut que lorsque les gens repartent, ils repartent avec une idée. Une idée, et c'est là-dessus qu'il faut insister. Eh bien, moi je suis désolé de dire que ce n'est pas du tout ma perspective. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est mon idée que je veux absolument... que les personnes, alors, mais avec lesquelles les personnes doivent repartir, mais à la limite, celui qui vend un produit ou le discours politique, c'est exactement sa perspective. Moi, c'est plutôt ouvrir des portes, montrer comment tel chemin s'engage à partir de la parole. Et puis ensuite, si les personnes ne s'engagent pas du tout là où moi j'avais prévu, mais ce n'est pas moi qui suis le maître du chemin, hein, c'est le Seigneur.
Pour terminer, je voulais aborder la question des homélies un petit peu spécifiques, notamment les jours de grandes cérémonies religieuses comme Pâques et Noël. Comment ça se passe de ce côté-là?
Oui, alors vous avez... C'est-à-dire que pour Noël notamment, là, quand on est devant des assemblées, je pense à certaines paroisses où, bon, voilà, j'ai... 60-70 personnes habituellement, et là tout d'un coup je vais avoir 10 fois plus de personnes.
Ah oui, carrément.
500-600. Alors là d'abord, c'est vrai que là ce sont des homélies qui sont cruciales. Et c'est vrai que là, ça peut arriver, d'ailleurs je l'ai fait pour ce Noël, que là pour le coup j'écris. J'écris parce qu'il faut être... on est moins complice qu'on peut l'être avec une assemblée habituelle où il y a les regards, etc. Et là, vraiment, plus que jamais, alors c'est le cas tous les dimanches, mais plus que jamais, il faut vraiment travailler. Et là, pour le coup, essayer de parler du cœur de la foi ou d'éléments centraux essentiels de la foi. C'est-à-dire que dans l'accompagnement que l'on fait dimanche après dimanche d'une communauté de pratiquants plus ou moins réguliers, on va explorer tel aspect de la foi, et puis tel autre aspect, et puis on va explorer. Vous voyez, on fait connaître. Bon. Mais je pourrais prendre simplement l'image. À Toulouse, vous faites visiter Toulouse à quelqu'un qui n'est jamais venu à Toulouse et qui n'a qu'une journée. Ben, vous allez le conduire vers les grands bâtiments, Place du Capitole, l'église la Basilique Saint-Sernin, tel ou tel... l'hôtel de Pierre, ou je ne sais pas, enfin bref, tel pont sur la Garonne. Vous avez par contre un groupe de Toulousains, et ils vont vous consacrer un après-midi, et bien vous allez aller leur montrer précisément des choses qu'ils n'ont pas vues. Vous allez rentrer dans tel cours qu'ils n'ont jamais visité, mais en fait ils connaissent déjà les grands... Ou alors, si vous leur montez les grands bâtiments, vous allez leur montrer, par exemple, à Saint-Sernin, des éléments sur lesquels ils n'ont jamais posé leur regard. Et donc, si vous voulez, analogiquement, dans ces grandes fêtes, là, faut vraiment réfléchir sur le cœur de la foi, mais toujours, toujours, toujours dans la perspective de comment ce cœur de la foi les concerne à eux, est important pour eux dans l'actualité qui est la nôtre.
Père Jean-Michel Poirier, merci beaucoup.
Merci, ce fut un plaisir.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.